Toujours à l'émission de littérature sur Radio Campus Orléans avec au téléphone et en direct Alain Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct par téléphone. Alors ma première question générale concerne Ayn Rand et pouvez-vous nous parler de l'actualité d'Ayn Rand en France ?
Ah, en France, l'actualité d'Ayn Rand, elle n'est pas, si je veux dire, actuelle, mais elle sera prochaine puisque tout laisse espérer que l'année prochaine, donc pendant l'année universitaire 2010-2011, paraîtra enfin la traduction du roman le plus connu d'Ayn Rand, Atlas Shrugged, qui est en même temps d'ailleurs l'un des textes les plus lus, qui a été le plus vendu aux États-Unis, tout de suite d'ailleurs, d'après les enquêtes qui ont été faites et les enquêtes les plus sérieuses, après la Bible. Donc ça c'est prévu, alors je ne peux pas m'avancer sur une date précise. Pendant un moment, j'avais espéré que ce serait en octobre, mais comme celui qui, aux États-Unis, a pris l'initiative de la traduction en français, traduction qui, d'ailleurs, entre parenthèses, a pris 2 ans, tellement l'ouvrage est immense, hein, c'est un véritable pavé. Donc, octobre, si possible, et plus probablement pendant le premier semestre 2011. Alors ça, ce sera une formidable actualité, puisque en France, il y a tout de même quelques milliers de personnes qui ont déjà lu Atlas en anglais, mais il faut tout de même tenir la route, hein, parce que c'est tout de même 1100 pages en édition de poche à écriture serrée, donc tout le monde n'a pas forcément envie, ni d'ailleurs le temps ou l'opportunité de le faire, et ce sera tout à fait un événement. Je dois préciser d'ailleurs que ce sera d'autant plus un événement que la France était le seul pays, je ne dirais même pas le seul des grands pays, à part les États-Unis, où Atlas n'avait pas été traduit, parce que Atlas a été traduit dans plus d'une vingtaine de langues, y compris en coréen, en norvégien, donc dans les langues, disons, peu parlées. Et là, il y avait quelque chose de tout à fait stupéfiant, bien que cela puisse s'expliquer sur le plan idéologique. Et enfin, ce manque, cette vacuité va être réparée l'année prochaine.
Alors oui, justement, c'est quelque chose dont on se pose la question, enfin assez rapidement, c'est pourquoi ce livre n'a pas été publié plutôt en français. C'est quoi en fait l'histoire de l'édition de ce livre ou de la non-édition de ce livre en français?
Alors, ce livre, assez étrangement d'ailleurs, avait bénéficié d'un début de traduction peu après sa publication aux États-Unis. Donc Atlas est paru aux États-Unis en 1957 et 2-3 ans après, un éditeur genevois, donc suisse, qui a depuis disparu, a entrepris la traduction. Et Atlas compose de 3 parties, et les 2 premières parties ont été traduites. Alors ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur a envoyé, pour demander son avis, ces 2 premières parties traduites à Ayn Rand. Mais il se trouve que Ayn Rand, c'est peut-être un point sur lequel on pourra revenir, comprend, à défaut de parler, mais comprend, lit parfaitement le français. L'explication est la suivante. Donc, elle est d'origine russe, elle est née à Saint-Pétersbourg en 1905, et entre 1905 et 1914, début de la Première Guerre mondiale, et puis surtout 1917, début de la Révolution, eh bien, les familles de la, je ne dirais même pas de la grande bourgeoisie, mais de la moyenne bourgeoisie, et de la moyenne bourgeoisie voulant ressembler à la grande, avait pour habitude de faire et de donner une éducation en français à leurs enfants. Et donc Ayn Rand a appris le français très précocement. Et alors, on revient maintenant à ce qui s'est passé en 1960. Lorsqu'elle a reçu cette traduction, elle n'est pratiquement pas allée plus loin que la première page, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'une interrogation lancinante scande Atlas Shrugged. Cette interrogation, c'est « Who is John Galt ?» John Galt est le personnage qui est l'instigateur de cette sorte de grève dans laquelle vont se lancer un certain nombre de créateurs et d'entrepreneurs, donc dans le roman. Et pour son malheur, le traducteur donc n'avait rien compris et il a fait figurer une note de bas de page en 1960 indiquant John Gould est un personnage imaginaire dont le nom revient souvent dans le roman. Or, John Gould est tout sauf un personnage imaginaire, c'est un personnage bien réel, simplement il se tient en retrait, il a une action très directe mais très clandestine, et évidemment, en lisant ce monstrueux contresens, Ayn Rand a, non seulement n'a pas voulu de la traduction, mais dans une scène qui lui est coutumière, prise de rage devant un tel contresens, elle a lancé la traduction par terre, l'a piétinée en disant « mais cette saloperie-là ne paraîtra jamais ». Donc, il n'y a pas eu de troisième partie de traduite, l'ouvrage n'a pratiquement pas été commercialisé, il est devenu une sorte de rareté, il n'y a que quelques exemplaires qui existent, moi j'en ai un, mais il a fallu batailler ferme pour en avoir, je crois que maintenant c'est totalement impossible. Donc, d'une certaine façon, on part de zéro, ceux qui ne lisent le français ou qui n'ont pas le temps de le lire en anglais n'en connaissent au mieux que les deux premiers tiers, et enfin, la troisième partie va donc être accessible en français. Donc voilà l'histoire. Alors, pourquoi est-ce que rien ne s'est passé depuis un demi-siècle, alors que dans les autres, pratiquement tous les autres grands pays, dans toutes les autres grandes langues, Atlas a été traduit? Alors j'en veux pour preuve, on va se dire, oui évidemment, ce sont comme toujours les anglo-saxons qui l'ont lu. Mais moi j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, alors les deux exemples que j'ai pris tout à l'heure, la Norvège, la Corée, entre autres, ou bien en hébreu, l'ont traduit. Eh bien, l'explication est toute simple et catastrophique, c'est que plus qu'en aucun autre pays au monde, Atlas Shrugged va droit contre ce qu'on peut appeler l'idéologie française dominante, en gros le social-étatisme, le fait que l'État doit tout faire à la place des gens, doit tout organiser, que les gens bien souvent attendent tout de lui. Or, Atlas essaie d'illustrer la position inverse, à l'aide évidemment d'une formidable intrigue, mais il y a tout de même en effet cette prise de position qui est là, et je crois que c'est l'explication la plus simple et hélas convaincante. Tout le monde n'a pas de ces pudeurs. Il y a quelques années, je me trouvais en Argentine, à Buenos Aires, et Atlas venait d'être traduit en espagnol, donc ça remonte, c'était vers 2003-2004, sous un titre intéressant, c'était la rébellion d'Atlas, et donc la traduction en espagnol, mais trônait tout à fait en tête de présentoir dans les plus grandes librairies argentines. Alors je ne sais pas si on aura ce bonheur en France l'année prochaine, je n'ose l'espérer, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que partout où Atlas a été jusqu'alors traduit, partout ça a été un succès. J'ai oublié de dire que depuis longtemps, Atlas Shrugged a été traduit en japonais et également en russe. Alors c'est pas tout à fait étonnant, puisqu'elle est d'origine russe, hein, elle est migrée aux États-Unis en 1926, mais tout de même, sachant d'où vient la Russie, il est assez extraordinaire de constater que même en Russie, Atlas Shrugged est un roman extrêmement connu et apprécié, alors que jusqu'alors en France, il n'en était rien.
Alors, là, c'était pour présenter un peu la chose. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec le choix d'Ayn Rand, qui est aussi connu en tant que philosophe, en tant que libertarienne. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a fait le choix de la fiction et non celui de la philosophie pour présenter ses principales idées? Pourquoi utilise-t-elle le roman?
Mais on peut déjà dire que bien d'autres auraient dû faire la même chose s'ils en avaient eu l'idée et puis déjà le talent. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il faut déjà prendre en compte, le pédigré et la trajectoire suivie par Ayn Rand. Ayn Rand, dès sa plus tendre enfance, avait l'envie d'écrire. Elle passait son temps à écrire des petits textes pour elle-même, voire des contes ou bien des projets des projets de romans et également, ça compte beaucoup, des scénarios. Et alors, lorsqu'elle était étudiante à l'université de Saint-Pétersbourg, qui était devenue d'ailleurs à l'époque Petrograd et puis in fine Leningrad, donc elle a été étudiante entre, disons, 1920 et, ou un petit peu avant, et puis 1924. Alors très vite, elle était frottée aussi au cinéma. Elle a fait des études de cinéma. Et lorsqu'elle a émigré aux États-Unis, eh bien, sa destination la plus chère et qu'elle a effectivement atteinte, elle a tout fait pour ça, ça a été Hollywood, où elle est devenue scénariste. Elle est lectrice de scénario et ensuite elle a écrit elle-même des scénarios pour l'industrie du cinéma à Hollywood. Elle a fait ses premières armes avec ni plus ni moins que Cecil B. 2000, donc elle était bien partie. Et alors là, elle a attrapé une sorte de virus, un virus tout à fait positif, c'est l'art d'écrire des scénarios, l'art en fait d'inventer des histoires. C'était ça sa vocation. Et elle s'est d'abord fait connaître, elle s'est pas tellement fait connaître d'ailleurs du côté de Hollywood, hein. C'était tout de même d'une certaine façon une tâcheronne. Elle a plutôt lu des scénarios, bien qu'elle en ait écrit quelques-uns. Mais alors, elle avait tout de même la fibre littéraire, la fibre de la romancière. Et en 1936, elle a publié un très beau roman, en partie autobiographique, qui s'appelle « With the Living », qui a été traduit en français, lui, « Nous, les vivants », qui raconte l'histoire, donc très inspirée de sa propre vie, d'une jeune fille qui est en but donc aux premières persécutions bolcheviques à Leningrad. Et ça a eu un succès d'estime. Le roman n'a pas eu beaucoup de succès en librairie. Mais en tout cas, elle a pris conscience qu'en effet, elle avait réellement un talent d'écrivain. Il y avait peu d'idées, sinon la détestation qu'elle va essayer d'illustrer toute sa vie du communisme et d'une façon plus large du collectivisme. Et elle a récidivé quelques années plus tard avec un autre roman, celui-là beaucoup plus connu, dont le titre américain est Fountainhead, c'est-à-dire, en traduction française, la source vive. Alors là, elle a davantage fait passer ses idées. Et alors, comme elle est une romancière d'origine, elle a bien compris à ce moment-là que le meilleur moyen, vu le succès rencontré par son livre, qui lui aussi a fini par se vendre à des millions d'exemplaires aux États-Unis, j'ai oublié de dire tout à l'heure que Atlas Shrugged a été vendu actuellement, va vers les 7 millions d'exemplaires vendus. C'est l'un des plus gigantesques best-sellers qui ait jamais vu le jour aux États-Unis. Donc, lorsqu'elle a publié The Fountainhead, la source vive, je souligne au passage d'ailleurs que ce livre-là a été adapté au cinéma et avec Gary Cooper dans un des rôles titres, n'est-ce pas? Et le cinéaste qui l'a porté à l'écran n'est pas n'importe qui, c'est l'un des plus grands cinéastes américains, c'est King Vidor. Donc vous le voyez, Ayn Rand a baigné dans une sorte de bouillon de culture à la fois littéraire et cinématographique, et à l'occasion de The Fountainhead, elle a bien compris que le meilleur moyen de faire passer des idées auprès du plus large public, à coup de millions d'exemplaires, c'est le roman, c'est la fiction. Et ce qui s'est passé d'ailleurs est très révélateur. Des éditeurs, beaucoup de ses amis, beaucoup de lecteurs surtout, lui ont demandé de publier un livre d'idées où elle exposerait en quelque sorte ce que vous avez tout à fait raison d'appeler tout à l'heure sa philosophie. Et elle a essayé. Et puis elle a renoncé. Et c'est là qu'elle est repartie vers un nouveau roman qu'elle a mis presque 13 ans à écrire. Donc la Atlas Shrugged, elle a commencé à y penser en 1943 et ça n'a été publié qu'en 1957. Mais là, elle a fait à nouveau ce choix validé par son expérience précédente, le meilleur moyen de faire passer des idées auprès du plus grand nombre, c'est le roman et certainement pas un essai philosophique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a marché aussi bien pour The Fountainhead, donc la source vive, que pour Atlas Shrugged, dont le titre est difficilement traduisible en français. Littéralement, ça veut dire le haussement d'épaules d'Atlas. Dans la traduction française qui paraîtra l'année prochaine, le titre retenu sera beaucoup plus simple, c'est la grève, donc il y a d'autres livres qui portent déjà ce titre, mais là il n'y aura pas à s'y tromper, il ne ressemblera certainement pas à ces homonymes. Donc vous le voyez, il y a un choix, au fond c'est un double choix, c'est un choix qui à l'époque correspondait à sa vocation profonde de romancière, et deuxièmement, c'est quelque chose qui vise à la plus grande efficacité. Le meilleur moyen de faire passer des idées, c'est la fiction, plutôt que quelque chose de rébarbatif qui ne sera lu que par quelques, au mieux, par quelques dizaines de milliers de personnes, et encore si on se trouve aux États-Unis.
Alors du coup, là, j'ai envie de vous poser une question encore vaste aussi. Pour nous, lecteurs et auditeurs français qui du coup n'avons pas lu Atlas Shrugged, en avons comme moi que des... une vision très très parcellaire par des oui-dire, parce que on a assez peu de choses sur Ayn Rand en français. Et c'est pour se rendre compte, c'est quoi l'influence d'Atlas Shrugged sur les Américains? Pourquoi ils y trouvent une matière comme ça qui les fait fantasmer, qui les stimule à ce point-là?
Ah ben, y a tellement de réponses possibles. Alors une première, c'est que Atlas Shrugged a été publié donc en 1957, à un moment où aux États-Unis, disons les partisans du free market, du libre marché, du capitalisme, de la liberté d'entreprendre, étaient peut-être pas en nombre infinitésimal, mais en tout cas n'avaient pas droit de citer, n'avaient pas voix de chapitre. Et lorsque le roman est paru, beaucoup de gens se sont dit, enfin, quelqu'un qui parle de ce que nous croyons, espérons, pensons, etc. Et Ayn Rand a fait beaucoup d'ailleurs pour la réhabilitation du capitalisme, ou comme elle dit d'ailleurs, du capitalisme de laisser-faire aux États-Unis. Et alors quelque chose qui est symptomatique, c'est d'ailleurs, ça donnait lieu à quantité d'articles dans la presse américaine, et puis évidemment sur Internet, c'est que depuis 2008, depuis le début de ce qu'on appelle actuellement la crise financière, économique, mondiale, eh bien, Atlas Shrugged, qui se vendait bon an mal an autour de 70 000 exemplaires, ce qui est considérable, 50 ans après la parution d'un livre, eh bien, la vente a, et donc l'achat, la lecture, a bondi d'une façon tout à fait extraordinaire. En 2009, il y a eu plus de 200 000 exemplaires vendus. C'est-à-dire que la crise a réveillé l'intérêt pour Ayn Rand, ne serait-ce que pour s'opposer à tout ce qui vient de l'État. Donc il y a une nouvelle génération d'Américains, des jeunes générations, qui actuellement s'est retrouvée comme Ayn Rand. Autrement dit, le roman d'Ayn Rand, Atlas Shrugged, est devenu symbolique et emblématique de l'opposition à une certaine manière de répondre par l'État, par les impôts, par la dépense publique, par plus d'intervention et de régulation à la crise. Mais ça, ce n'est qu'un seul élément de réponse. Et Ayn Rand, la première, a toujours dit « Mais on aurait tort de ne voir dans mon roman que une sorte d'apologie du capitalisme. C'est, au fond, le petit bout de la lorgnette. Il y a quelque chose de bien plus important, de plus troublant, d'ailleurs, en même temps, c'est que, dans Atlas, elle propose une sorte de vision globale du monde qui repose sur le primat de la raison, du self-interest, c'est-à-dire de... et au fond, pour utiliser son propre vocabulaire, de l'égoïsme rationnel, c'est-à-dire de l'égoïsme bien compris, d'un égoïsme respectueux de l'égoïsme des autres. Alors tout cela, repose sur des fondements philosophiques, parfois un peu élémentaires. C'est vrai, moi je suis un admirateur d'Ayn Rand, mais je conserve ma libre appréciation, mon esprit critique face à elle. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que, par exemple en France, beaucoup de personnes maintenant, disons une grande majorité des Français, ont été frottés à la philosophie lorsqu'ils sont passés en classe terminale au moins. Et la littérature philosophique est beaucoup plus répandue qu'aux États-Unis. C'est tout l'inverse aux États-Unis. Il n'y a pas d'enseignement de la philosophie dans les collèges. Et ce qui s'est passé, c'est que un certain nombre d'Américains qui voulaient disposer d'un système d'interprétation du monde, fut-il un peu élémentaire, eh bien, ils ont trouvé dans Ayn Rand la réponse à leur question. Autrement dit, tous ceux qui ne sont pas satisfaits des réponses religieuses, alors vous savez comme moi à quel point les Américains sont férus de religion, mais on ne peut pas généraliser. Donc ceux qui voulaient une autre approche du monde, une autre vision, qu'ils ne trouvaient pas évidemment dans le gauchisme, qu'ils ne trouvaient pas dans l'aspect conservateur de la religion, eh bien, Ayn Rand leur a apporté ça. Leur a apporté je vais être volontairement un petit peu caricatural, ce qui montre tout de même la distance critique que je prends par rapport à Ayn Rand. Et elle leur a apporté des sortes d'évangiles, une sorte de catéchisme, un peu trop réponse à tout, mais pour pas mal de gens, c'était véritablement...